L'île Shanghai a fait rêver beaucoup de gens, même les entreprises qui sont parties là-bas, avec un projet et l'occasion pour nous aussi, en cette période, de faire déjà un bilan avec celles qui en sont revenues. Aujourd'hui, je reçois Marc Vérode de MVE Innovation et M. Laurent Dupire, responsable du pôle Nutrition, Santé, Longévité au parc Eurasanté de Lille. Voilà, donc, j'allais dire, mission accomplie, M. Vérode ?
Mission accomplie, oui. Mission bien accomplie, puisque j'ai eu la chance de découvrir une ville dans laquelle j'étais déjà passé, mais où là je suis resté une semaine. Une petite ville de 20 millions d'habitants, donc l'image du pays. Accomplie dans le sens où des contacts très avancés ont été pris avec des sociétés chinoises, puisque je suis actuellement en cours de négociation de signature de contrat d'exclusivité de production d'un de mes brevets là-bas en Chine, et mission à la fois pas accomplie, puisque j'attendais de nos institutionnels, et notamment de la Chambre de commerce et d'industrie Service Export, un certain nombre de rendez-vous avec des industriels chinois, et force est de constater que je me suis débrouillé tout seul avec mes petits bras.
Bon, on peut dire qu'il y a eu un certain nombre d'entreprises donc, qui ont pu aller là-bas en cette occasion. Disons que ça a été l'effet déclenchant. Jusque-là, ça va ?
Tout à fait.
Et qu'à partir de là, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre pour une CCI lilloise.
De toute façon, en Chine, rien n'est facile. Ça se saurait, bien évidemment. La CCI m'avait, entre guillemets, fait miroiter un certain nombre d'entretiens avec des industriels chinois. Et à 48 heures du départ, j'ai reçu un coup de fil m'informant que, compte tenu de la charge de travail dans leur structure, ce que je peux comprendre tout à fait, la mission était annulée. Malheureusement ou heureusement, avec une autre société que j'ai, je travaille avec la Chine depuis 3 ans. J'avais donc pris moi-même, via cette même société, des rendez-vous que je ne pouvais pas décaler. Donc je suis effectivement parti avec la mission Chine, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lille, mais parti, j'ai presque envie de dire, pour mes propres rendez-vous.
Donc pour cette occasion de Shanghai, d'ailleurs, Exposition Universelle, on peut peut-être revenir aussi sur le fait qu'on annonce Shanghai Exposition Universelle et que le lieu est quand même assez distant.
Alors, on annonce effectivement, moi j'ai pu lire dans la presse régionale, Shanghai, Exposition Universelle, Lille 3000. Il faut quand même préciser que le pavillon Lille 3000 est complètement externalisé à l'Exposition Universelle de Shanghai. Nous avons un magnifique pavillon avec la mise en avant des tissus techniques de la région, avec la mise en avant d'un certain nombre de savoir-faire régionaux, peut-être pas idéalement placés dans la ville de Shanghai.
Bon, néanmoins, c'est mieux que rien.
C'est mieux que rien, mais ça aurait été moins bien que quelque chose, quoi. Mieux que rien, pour moi, quand on fait quelque chose, ou on fait ou on fait pas.
Alors mieux, c'est plus cher ?
Après, c'est une question de budget, probablement. Moi, vous savez, je ne suis pas du tout au courant des budgets des uns et des autres dans ces opérations. L'expérience aujourd'hui, malheureusement, nous montre que via le football, même avec les meilleurs budgets, on n'arrive toujours pas à des résultats formidables. Voilà. Donc les budgets n'expliquent pas tout.
Donc, en l'occurrence, vous avez donc essentiellement compté sur votre propre réseau, vos contacts là-bas, plutôt que par les propositions, enfin les recherches qui auraient été faites, a priori, selon la CCI, vous concernant ou concernant d'autres entreprises.
Tout à fait.
Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est un peu la leçon.
Oui. Et puis vous savez, comme dit le vieil adage, il faut être pris pour apprendre. Donc, et il ne faut jamais compter sur les autres.
Donc vous concernant, vous estimez quand même avoir eu un peu de chance d'avoir un minimum de réseau là-bas, autrement vous auriez un peu perdu en qualité votre représentation.
Moi, à titre personnel, j'estime que j'ai une chance extraordinaire d'avoir un réseau sur place. Je me mets à la place d'un jeune chef d'entreprise qui vient de créer son entreprise, qui n'a pas de réseau en Chine, à qui on propose une mission en Chine, auquel on ne propose pas de rendez-vous. Effectivement, ça pose un problème.
Donc à corriger, pas pour la prochaine Expo Universelle dans 4 ans, mais peut-être s'il y a des choses dans l'intermédiaire, ce serait quand même bien de revoir un petit peu l'organisation.
Comme je vous l'ai dit en début de notre entretien, moi je ne fais pas partie de l'organisation de la CCI, donc j'ai aucun commentaire à faire sur leur pratique ou leur manière de fonctionnement.
D'accord. Donc on peut peut-être maintenant aborder l'intérêt que vous avez trouvé là-bas en trouvant des partenaires, notamment une société avec laquelle vous allez entrer en échange.
Alors, une société avec laquelle je vais rentrer en échange, c'est une petite société chinoise de 500 personnes qui est donc spécialisée dans mon domaine d'activité qui est l'injection d'accessoires plastiques. C'est 300 presses à injecter automatiques qui tournent jour et nuit. C'est 3 millions d'accessoires plastiques par jour. Donc, j'entends par accessoires plastiques une pompe pousse-mousse ou des petits pistolets style les pistolets qu'on utilise quand on doit nettoyer les carreaux. J'ai rencontré un chef d'entreprise chinois très ouvert. Il m'a permis de visiter l'ensemble de la production. Au sein de la production, certains secteurs d'activité pour des accessoires de la cosmétique. Donc une usine, excusez-moi du terme, qui n'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais une usine sous pression, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'usine, il y a des gros ventilateurs qui font de la pression et donc qui expulsent l'air vers l'extérieur pour éviter que les poussières ne rentrent à l'intérieur. Des gens qui travaillent avec des gants blancs, des charlottes sur la tête, un degré de savoir-faire aussi performant que ceux que j'ai déjà vus en France et en Europe.
Donc là, vous avez présenté un petit peu la technicité de cette entreprise. D'un point de vue conditions de travail, comment vous décririez ? Vous êtes allé visiter ?
Bien sûr, les conditions de travail que j'ai vues sont des machines automatisées, sont des techniciens qui appuient sur des boutons, comme en France. Ce sont des salariés qui sont à des postes de travail où il y a encore quelques postes qui ne sont pas automatisés. J'ai vu, moi, des conditions de travail correctes. Maintenant, ceci dit, soyons clairs, je n'ai pas vu les fiches de paye, je n'ai pas vu les avantages ou non des salariés de l'entreprise, parce que ce n'est pas mon rôle et je n'étais pas venu pour ça.
D'accord. Donc, on peut supposer de toute façon que cette entreprise, cette usine, est sur un fonctionnement contemporain, j'allais dire, adapté aux conditions de travail chinoises.
C'est une usine que j'ai rencontrée d'un industriel contemporain et équivalent de ce qu'on peut retrouver en Europe.
Et que ces conditions évoluent plutôt positivement pour les travailleurs ou vous n'avez pas de point de repère ?
Malheureusement, je ne parle pas le chinois, donc je suis incapable de tenir une conversation avec un salarié ou un ouvrier chinois. Tout ce que j'ai vu, moi, par rapport à ce que je peux voir ailleurs, ne m'a pas choqué. J'ai vu des gens, j'ai presque envie de dire, habillés correctement. Il n'y a rien eu d'extraordinaire, je veux dire, à ce niveau-là.
Donc cette entreprise, elle se situe où par rapport à Shanghai ?
Alors cette entreprise, je ne suis pas un spécialiste de la géographie, mais environ 2h30 de route plein sud de Shanghai, dans une région qui s'appelle Ningbo, et qui est le berceau, je dirais, chinois de tous les injecteurs plastiques en termes d'accessoires plastiques dont je m'occupe.
Donc, c'est vrai que quand on voit le catalogue de cette entreprise, on peut dire que vous étiez fait pour vous entendre.
J'ai presque envie de dire oui. Je pense qu'ils ont trouvé un partenaire et que moi, j'ai trouvé un industriel tout à fait prêt à s'investir dans la réalisation des accessoires plastiques relatifs à mes brevets et tout à fait prêt à jouer, entre guillemets, le jeu de partenariat pour signer un contrat de distribution exclusif de ces articles en France. Donc, on est pile poil dans une démarche gagnant-gagnant.
Pour beaucoup d'entreprises françaises, je parle des très grosses entreprises, souvent il y a un transfert de technologie, de compétences qui se fait quand il y a des signatures de contrat. Est-ce que vous avez eu un engagement par rapport à ça ?
Alors à ce niveau-là, il va y avoir, alors on ne va pas dire un transfert de technologie, parce que bien évidemment, je ne vends pas des Boeing ou des centrales nucléaires clé en main. Mais moi aujourd'hui, de par les accessoires que je fabrique en France, on a donc dû concevoir des moules spécifiques. Et donc simplement, les plans des moules vont être transmis tout naturellement aux Chinois pour qu'ils puissent faire un copier-coller.
Est-ce que vous pouvez faire le distinguo entre un accord de coopération comme celui-là et une joint venture, par exemple ?
Alors, une joint venture, c'est dès lors où l'un prend des participations dans la société de l'autre. Tandis que là, on n'est pas du tout dans cette philosophie-là. On est dans une philosophie, j'importe tes produits, toi fabricant chinois pour la France, parce que tu n'arrives pas à pénétrer le marché chinois pour telle et telle raison. Et aujourd'hui, un Français va plutôt faire confiance à un Européen plutôt qu'à un Chinois. Donc le risque, entre guillemets, de voir arriver des produits, entre guillemets, non conformes, c'est moi qui le prends. En échange de ça, tu me fabriques, toi chinois, mon brevet français pour les pays loin de la France et de l'Europe, à savoir Chine, Japon, Corée, USA.
Donc, On a bien compris pour votre entreprise l'intérêt de ce développement d'activité. Si on ramène ça à l'impact en région Nord-Pas-de-Calais, comment vous verriez les choses en termes de bilan prévisionnel ?
Alors, l'impact en région Nord-Pas-de-Calais va rester sur ce que j'avais dit lors de notre premier entretien. Aujourd'hui, sur mes brevets, tout est fait en France, notamment en région Nord-Pas-de-Calais, pour toute l'Europe. Donc, de retour de Shanghai, je veux dire, l'impact ne va pas être plus qu'avant. Après, parce que je ne lis pas dans la boule de cristal, si demain, parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé effectivement le partenaire fabricant de l'accessoire plastique, mais si je ne trouve pas à très court terme le partenaire qui va être fabricant de ce qu'on met dans l'accessoire plastique, c'est-à-dire les produits nettoyants ou désinfectants, etc., très probablement, je ferai faire avec mes partenaires habituels régionaux et puis on fera faire des conteneurs qui partiront directement en Chine par bateau.
Très bien. Monsieur Véron, vous pouvez peut-être nous présenter votre partenaire ici présent, Laurent Dupire.
Alors, Monsieur Dupire n'est pas un partenaire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré justement lors de cette mission L'île 3000 à Shanghai. Et donc, alors moi, je ne suis pas un spécialiste, donc je dis toujours qu'il fait partie du pôle Eurasanté et donc il jette parfois les yeux au ciel. Donc je vais le laisser se présenter et nous préciser un petit peu toutes ses fonctions.
Très bien. Monsieur Dupire, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc voilà, qu'est-ce qui a amené votre échange et votre présence en commun ici aujourd'hui ?
La présence en commun, c'est le fait qu'effectivement, on ait fait cette mission et ce déplacement sur Shanghai ensemble, mm-hmm. donc qui a donné l'occasion de se rencontrer, ma foi, et puis aussi de sympathiser, on va le dire. Mais aussi, on était parti sur des missions et des objectifs qui sont, ma foi, très substantiellement différents. Hein, puisqu'on a eu ici Marc Vérode qui représente une entreprise avec ses objectifs de production, de chiffre d'affaires, de développement, qui est tout à fait honorable et, ma foi, très très bien pour la région Nord-Pas-de-Calais aussi d'avoir des entreprises qui soient aussi jeunes et aussi dynamiques sur le marché international. Donc je pense que ça, c'est quand même à noter. Moi, par contre, je représente donc le pôle nutrition, santé, longévité, qui est un pôle de compétitivité et qui a pour vocation surtout d'aider les entreprises à trouver des partenaires dans le cadre de développement et de montage de projets, on va dire, de recherche et développement collaboratifs sur des thématiques qui sont plutôt liées aux problématiques de nutrition, de santé, liées aux problématiques du monde occidental, mais du monde entier peut-être, qui sont les maladies cardio-métaboliques. Diabète et obésité, en même temps que sur les maladies liées au vieillissement. Donc vous me direz quel rapport avec la société MVE Innovation ? C'est bien ce qu'on disait, c'est que a priori, pas grand-chose, sauf que nous sommes aussi localisés au niveau de Eurasanté, qui est un support de développement économique local pour les entreprises de la filière nutrition-santé. Qui soutient donc Marc et MVE Innovation dans ces démarches. Et nous sommes en support sur ces actions, sachant qu'en plus, MVE Innovation a des applications directement liées santé sur les thématiques qui peuvent nous intéresser aussi. Donc du coup, en plus, on se retrouve sur ma foi, on se rejoint sur des applications qui peuvent parfaitement rentrer en adéquation avec les problématiques de nos acteurs. Aujourd'hui, donc une cinquantaine d'entreprises du monde agroalimentaire et du monde de la biotechnologie, telles que Roquette, Le Safre, et en même temps des sociétés beaucoup plus jeunes, telles que Health Protect ou Genoscreen, sur ces problématiques-là. Donc, nous sommes partis sur ces missions Chine parce qu'aujourd'hui, il est assez évident que ce sont des marchés, en tout cas des pays, qu'il faut effectivement connaître à différents niveaux. D'une part, pour permettre à nos propres entreprises d'appréhender la concurrence qui risque quand même de venir assez rapidement, si ce n'est déjà le cas, sur nos propres marchés, et de s'y préparer. Et en même temps d'essayer, comme l'a fait Marc et tout à fait judicieusement, pour essayer de trouver des partenaires avec lesquels il est possible de discuter afin de développer l'activité économique, en l'occurrence, de notre région. Parce qu'on parle bien, de ça. C'est soit nous collaborons avec aujourd'hui le monde, et en l'occurrence la Chine, ou soit j'ai bien peur qu'effectivement, vu ce que nous avons pu voir là-bas en termes de développement et d'avancées technologiques, on risque d'avoir quelques surprises d'ici quelques années. Donc nous, notre position est relativement claire à ce niveau-là. Nous étions dans une mission prospective, en l'occurrence pour aller cibler un événement qui a lieu là-bas, qui est CPHI, donc qui regroupe les plus gros industriels de la chimie et de la pharmacie chinoise. Donc clairement, c'était une mission de prospection pour voir quel était l'état du marché, la qualité des acteurs positionnés sur ce marché, et aussi d'évaluer les possibilités de mise en relation avec nos propres acteurs régionaux pour évaluer les prises de position sur ce secteur-là, ou de développement et de co-développement.
Alors, je vois donc par rapport à votre pôle, nutrition, santé, longévité, ces trois domaines, on va dire, sont en plein dans l'intérêt actuel du développement de la Chine aussi.
Oui, absolument. Donc c'est pour ça, je pense que la Chine, moi ce que j'ai pu constater là-bas, c'est que par rapport à ces acteurs, il y avait une réelle force de production. Un peu moins une force d'innovation aujourd'hui. Et je pense que c'est là où peut-être la France, et en particulier le Nord-Pas-de-Calais, à l'image de la société MVE Innovation, a vraiment un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de... À une époque, il y avait le slogan « On n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées ».
Tout à fait.
Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on a beaucoup plus de pétrole, mais en tout cas, on a toujours autant d'idées.
Ça, c'est clair.
Et en plus, il y a de gros besoins.
Et en plus, les besoins sont grandissants. C'est-à-dire que les idées qu'on avait il y a quelques années et qui se localisaient sur le marché français, aujourd'hui, ce sont des idées qui peuvent s'exporter assez facilement parce que ce sont des systèmes de production qui s'ouvrent. Alors, on va nous dire, oui, mais vous allez faire produire en Chine, et vous retirez le pain de la bouche des Français, etc. L'objectif n'est pas de délocaliser. L'objectif est de pouvoir trouver des partenaires qui existent déjà et qui nécessiteraient de toute façon de faire de tels investissements au niveau français que personne ne les fera jamais. Par contre, l'enjeu est de se dire qu'une entreprise de la taille de MVE Innovation, par exemple, puisse grossir en exploitant la valeur ajoutée de son personnel, c'est-à-dire sur la conception, sur l'innovation, sur le développement, et en même temps de s'appuyer sur nos centres de recherche pour développer de nouveaux systèmes. Après, si effectivement nous ne sommes pas capables, mais je crois que là, on a un petit démenti quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses que MVE Innovation produit en France. Mais après, il est évident aussi qu'il y a un échange de bons procédés à avoir. Je veux dire, quand on attaque le marché américain, on nous demande de produire aux États-Unis. Quand on attaque le marché chinois, on nous demande de produire en Chine. Et à l'inverse, quand les Chinois ou Américains essaient d'attaquer le marché français, on leur demande de produire en France. Voilà, je pense que c'est un des choses de bon procédé et chacun doit s'y retrouver. Je pense que la place de la France et en l'occurrence du Nord-Pas-de-Calais sur ces thématiques est vraiment une place centrale en termes d'innovation, de compétences et qu'il faut vraiment la maintenir. Donc nous, l'objectif était vraiment de faire ça. Et je rejoins tout à fait Marc sur les entreprises que j'ai pu voir là-bas. Ce sont des entreprises excessivement qualifiées. Qui répondent quasiment à toutes les normes européennes qui peuvent être exigées. Donc ce sont en l'occurrence des partenaires de production tout à fait de qualité.
Fiable.
Et qui savent s'adapter et qui sont fiables et qui peuvent répondre assez rapidement à nos besoins.
Donc là, en termes d'efficacité, d'intérêt pour vos entreprises, on sent bien que la mondialisation, ça a du bon. Pour les gens en France, actuellement, il y a quand même des petits soucis sociaux, les manifestations, les grèves. Et justement, est-ce que le fait de cette mondialisation et des conditions de travail ou des conditions économiques, etc., les répercussions, c'est quand même qu'on veuille faire admettre aux travailleurs français ou voire aux entreprises françaises qu'il y a des règles qui dépassent les règles françaises et qu'elles doivent finalement se niveler plutôt par le bas que par le haut, non ?
Alors, bon, une première réponse peut-être, parce qu'il y a deux jours, je discutais avec quelqu'un qui a passé un appel d'offres au niveau international sur la production d'une molécule chimique, donc le genre d'entreprise que j'ai rencontré là-bas. Il a lancé son appel d'offres, il a eu trois réponses, une réponse américaine, une réponse allemande et une réponse chinoise. Et il s'avère que la réponse chinoise est quelque part trois fois plus élevée que les autres réponses. En termes de coût. Donc quelque part, l'aspect coût aujourd'hui est à réévaluer très clairement. par rapport à la prise de position de certains industriels européens ou américains. En revanche, le nivellement par le bas, là, malheureusement, je vais avoir la même position que Marc Vérode. En l'occurrence, j'ai pas vu les fiches de paye des gens qui travaillent là-bas. On peut effectivement supposer que les conditions salariales soient largement inférieures. Je veux dire, il faut pas nier ce qui est dit quand même dans les médias de manière générale. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on a pu voir là-bas n'est pas aussi dramatique que ce qu'on peut nous montrer. Je mitigerai cela quand même par le fait qu'on a quand même croisé des quartiers qui sont des quartiers très luxuriants, voire luxueux, et qui côtoyaient très nettement à 20 ou 30 mètres d'écart des quartiers qui sont au-delà du quartier populaire, je pense, des quartiers relativement pauvres.
Alors, pour répondre à votre question, quand même, si je puis me permettre d'intervenir, de toute façon, quoi qu'il arrive, la mondialisation se fera avec ou sans l'accord des uns et des autres, mais elle se fera quand même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme le disait à juste titre Laurent, effectivement, on n'est pas, moi, j'ai pas vu les fiches de paye, mais j'ai pas vu des gens particulièrement, entre guillemets, dans le besoin. Le fait d'avoir effectivement des quartiers luxurieux, pour pas dire luxueux, et d'autres quartiers un peu moins beaux, la problématique est la même dans toute l'Europe. Hein. Donc, c'est pas propre à la Chine. Par contre, aujourd'hui, il faut savoir qu'en Chine, il se passe mais exactement ce qui s'est passé en France au sortir de la guerre, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à ouvrir leur pays, à reconstruire leur pays, ou à le construire, qu'aujourd'hui, un certain nombre de populations sont arrivées dans les villes, et les villes rencontrent les problèmes qu'on a rencontrés, nous, dans les années 65-70. Faut savoir qu'il y a des grèves qui sont en train de se mettre en place, faut savoir qu'il y a certains ouvriers, notamment dans une usine automobile, qui ont vu leur salaire augmenter de 25% suite à 3 semaines de grève. Donc on est parfaitement dans la même problématique que nous, on a connue il y a quelques années, et les niveaux de vie, tôt ou tard, vont avoir tendance à s'équilibrer. Toute notre problématique, c'est de savoir dans combien de temps. Et c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, parce qu'effectivement, nos entreprises françaises, régionales, nationales, souffrent. Et donc, la seule alternative que moi, petite société, j'ai trouvée, c'était d'être avec des choses innovantes, déposer des brevets, faire produire en France, pour pouvoir continuer à maintenir une activité économique, un savoir-faire, et notamment dans la région, parce que c'est indispensable.
Donc, si je comprends bien votre propos, la clé de la réussite et du développement ou du redéveloppement économique de la France ou de la région, c'est d'abord le niveau de compétence et aussi l'esprit d'innovation.
C'est la capacité qu'on a à se remettre en cause. Alors il faut, c'est pas facile tous les jours, hein. Bien évidemment, ça nécessite un peu de travail, mais aujourd'hui, faut arrêter de croire que les grandes entreprises textiles comme la Lainière, où il y avait 2000, 3000, 4000 personnes, ça va revenir. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Entre deux, on a le téléphone portable, on a eu l'ordinateur, on a eu un certain nombre d'évolutions dans la société qui font que, pour la société de demain, il faut qu'on la prévoie aujourd'hui.
Donc, Monsieur Dupire, dans votre pôle, je suppose que vous avez beaucoup de PME, voire de petites entreprises. Est-ce que ces entreprises, vous les jugez plus pertinentes, plus innovantes que les grosses entreprises traditionnelles ou même les grosses qui se sont développées avec de gros moyens?
Alors, question intéressante, mais je ne sais pas si elle se pose vraiment dans ces termes-là. Je ne sais pas si c'est vraiment une question de pertinence. En l'occurrence, les plus grosses entreprises qui sont membres du pôle sont principalement des entreprises agroalimentaires, du type le Safre ou la société Roquette ou la société Finalaire aussi, le Roux, mais aussi d'autres. Je pense que leur pertinence existe, se maintient. En plus, ce sont des entreprises excessivement dynamiques. D'un point de vue commercial, d'un point de vue positionnement international et d'un point de vue de l'innovation. Donc là, je veux dire, leur pertinence, c'est la pertinence d'une entreprise n'est pas forcément une question de taille. Les problématiques sont différentes entre une entreprise de grosse taille et une entreprise de petite taille, mais la pertinence n'est pas en état de cause. Tout simplement, une entreprise qui n'est pas pertinente sur un marché donné est une entreprise qui ne survivra pas. Donc ce n'est pas à nous de juger du fait de sa pertinence ou pas, c'est le marché, ma foi, qui s'en charge. Donc laissons faire les choses. Si des gens, comme disait Marc, ne sont pas capables de se remettre en question, ils courent souvent à leur perte dans un environnement très, très variable. Et les petites entreprises, en l'occurrence, on a très peu de petites entreprises aujourd'hui qui sont sur le domaine de la nutrition. Ça, c'est un manque pour une région qui est quand même historiquement positionnée sur l'agroalimentaire. On peut le regretter. Nous, on fait le nécessaire. On fait ce que nous avons à faire pour motiver une dynamique un peu plus importante sur ce secteur-là en termes d'innovation et de positionnement et de création d'entreprises. Ce qui veut dire que les petites entreprises sont plutôt issues du monde des biotechnologies. Ce sont des entreprises qui ont souvent des molécules nouvelles, des systèmes de traitement nouveaux, des approches par rapport aux pathologies assez innovantes parce que issues de nos universités, de nos systèmes de soins ou de nos CHR. Donc elles ont aussi toute leur pertinence puisqu'aujourd'hui, ces petites entreprises telles qu'on peut les considérer sont des entreprises qui sont, ma foi, regardées d'un œil très concupiscent ou avec beaucoup d'attirance par les gros groupes. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça donne des cartes de pertinence, comme vous dites, pour la région, et charge à nous d'essayer d'augmenter ce panel de pertinence et d'innovation en région. Donc, simplement pour dire, oui, la taille en soi n'est pas un critère de pertinence parce qu'on peut être une grosse entreprise très dynamique en même temps qu'une petite entreprise très dynamique. Simplement, les contraintes marché sont aussi parfois très différentes. Il est beaucoup plus difficile d'avoir une grosse entreprise de biotechnologie, parce que des développements beaucoup plus longs, qu'une grosse entreprise de nutrition ou d'agroalimentaire. Sachant que la région attire quand même aujourd'hui quelques entreprises intéressantes, puisqu'on a quand même eu Bayer Schering Pharma qui s'est installé sur le parc Rasanté, et on a aussi la société Tate & Lyle qui s'est installée, ma foi, pas très loin de chez vous, puisqu'ils sont sur le parc de la Haute-Borne, et ils ont installé leur centre de recherche par le fait même qu'il y avait une pertinence à être en contact avec les acteurs de la recherche académique régionale et le pôle de compétitivité. Donc je pense qu'à partir de là, on a réuni tous les facteurs qui disent que la région a une réelle pertinence, que la taille de l'entreprise n'est pas en soi un critère de pertinence, et que ma foi, c'est vraiment aux acteurs académiques et aux acteurs privés du monde industriel de montrer ce dont ils sont capables de faire. Et ma foi, je ne le dis pas par politique, mais très sincèrement, j'ai la conviction, moi personnelle, qu'on a vraiment en région Nord-Pas-de-Calais beaucoup d'atouts pour que cela se passe au mieux.
Alors, vous parliez d'entreprises et d'initiatives individuelles. Est-ce qu'une personne, j'allais dire un chef d'entreprise, mais qui démarre par son idée, est capable de fédérer autour de lui à la fois des financements, des partenariats et un marché autour d'une idée forte?
La réponse va être extrêmement simple et extrêmement claire. Je suis parti avec rien. Donc je suis parti avec rien, une farouche volonté d'y arriver, de convaincre les différents financiers. Ça a commencé par, bien naturellement, les banques. Et puis ensuite, j'ai eu affaire à des structures institutionnalisées style OSEO, où là, effectivement, dans le cadre de projets innovants, les entreprises et les entrepreneurs sont accompagnés sous forme de subventions, sous forme de prêts à taux zéro, remboursables en 3, 4, 5 ou 6 ans. Donc aujourd'hui, en termes de structure et d'aide à l'accompagnement des entreprises innovantes, franchement, il y a vraiment ce qu'il faut. Je discutais lors d'un bio-coaching, et encore la semaine dernière, avec une personne du service des impôts, puisqu'il y avait un bio-coaching spécialisé dans le CIR, c'est le crédit impôt recherche. Et en discutant avec cette personne, alors quand on dit le monde des impôts, on voit tout de suite le grand loup-garou qui va vous faire un redressement fiscal. Et donc finalement, en discutant avec cette personne, elle m'a dit « mais on est là pour accompagner les entreprises ». Et aujourd'hui, compte tenu de votre structure, compte tenu de votre politique à 3 à 5 ans, puisque je lui ai expliqué un peu plus en détail ce que je faisais, elle m'a dit « non, monsieur Véraud, c'est pas ça qu'il faut faire, faut pas faire crédit impôt recherche, vous devez passer sous le statut jeune entreprise innovante, qui offre d'autres possibilités, qui offre d'autres avantages à l'entreprise pour son développement futur ». Donc effectivement, les institutionnels, entre guillemets, tous les institutionnels, on est vraiment aidé quand on a vraiment envie de faire quelque chose.
Donc là, à la rentrée, en septembre, il va y avoir le salon créé, comme chaque année, on va dire maintenant. Est-ce que ça aussi, ça peut contribuer à la réussite de mise en place de projets de façon pertinente ?
Tout à fait, puisque moi, créé, je suis allé au salon il y a 2 ans, pour la première fois. Et donc, c'est là que j'ai rencontré les acteurs dont on vient de parler. J'ai rencontré les gens de l'INPI. Donc, c'était des contacts de salon. Après, derrière, donc, bien évidemment, il y a des rendez-vous en dehors du salon. On est bien sur une prise de contact et de renseignement. J'ai rencontré des gens d'un club dont je fais partie aujourd'hui, qui est le CELM, qui est le club des entrepreneurs Lille Métropole. J'ai rencontré différents acteurs. Et effectivement, un salon comme le salon créé, ça va très bien pour une personne qui a une idée, qui a un projet, même si le projet n'est pas innovant, ne serait-ce que de monter son entreprise, de vouloir faire tel ou tel type d'activité. Il y a toujours, toujours quelque chose à glaner dans ce salon qui est extrêmement intéressant.
Ne pas rester isolé, c'est important.
Tout à fait.
Voilà, bien, merci de nous avoir rencontrés.
Et merci de votre accueil.
Et bonne continuation, bonne chance pour tout.
Merci bien.
Au revoir.
Merci de votre accueil, au revoir.